Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil. Bienvenue sur Europe 1, votre 5-7 démarre en direct avec toute l'équipe, Charlotte Barrican et Julien Froment avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes le vendredi 30 avril.
J'ai assez hâte de pouvoir retourner au cinéma, oui, pour voir n'importe quoi.
Moi, ce qui me fait plaisir, ce sont les musées, le plaisir de s'y retrouver aussi.
Pouvoir voir ses amis qui habitent loin, ça fait depuis décembre que je les ai pas vus.
Ah oui, ça y est, la France a des perspectives, des confinements en 4 étapes avec réouverture progressive des terrasses, des cinémas, des musées et restaurants. On y revient très largement ce matin, avant un week-end qui s'annonce comme le dernier confiné dans la limite des 10 km. Au programme également ce vendredi, Charlotte Barrican, qu'avez-vous repéré pour nous ?
Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les amateurs et les professionnels du foot n'ont qu'à bien se tenir. Je vais vous parler de la lucarne d'Evry.
Et on mettra Julien Froment au défi tout à l'heure. Julien, votre trouvaille du jour ?
Eh bien, c'est dans le Libé du jour. Si vous hésitiez, eh bien, Théo, à vous faire tatouer, eh bien, grâce à une start-up new-yorkaise, vous allez peut-être sauter le pas.
Comme ça, je crois que c'est un tatouage éphémère qu'on peut effacer, c'est ça ?
Voilà, exactement.
On peut revenir en arrière. Merci beaucoup Julien, ce sera dans un petit quart d'heure. Mes invités ce matin. Il a hâte évidemment de rouvrir ses 350 restaurants. Jocelyn Olive, directeur général de Buffalo Grill, sera avec nous à 6h40. On va voir comment il prépare cette réouverture. La question de la main-d'œuvre aussi, alors que de nombreux serveurs, commis ou petites mains risquent de manquer à l'appel dans la restauration. Un point enfin sur les aides, rendez-vous à 6h40. Avant cela, à 5h40, le confinement n'a pas frappé toute la France avec la même virulence. C'est l'enseignement d'une toute nouvelle étude de l'INSEE qui s'est penchée sur le premier confinement de 2020. 20 départements par département et que viendra nous détailler le statisticien Gérard Moreau. À 6h20, l'invité inattendu, les salles de spectacle restent fermées jusqu'au 19 mai. Qu'à cela ne tienne, lui prend sa voiture pour aller jouer en Chine, dans une langue qui plus est qu'il ne comprend pas et qu'il ne parle qu'en phonétique. Voilà, extrait de ce spectacle d'un humoriste français pas comme les autres et il nous rejoint à 6h20 jusqu'à 7h. La revue de presse internationale nous mènera d'ailleurs en Chine, en Italie et en Pologne. Vous avez le programme. Très bon réveil. On commence avec un point sur le temps de ce vendredi. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour Théo et bonjour à vous tous. La pluie est toujours au rendez-vous sur les régions méridionales, hein, sur la moitié sud. Il pleut maintenant dans l'est de manière assez conséquente d'ailleurs. Ces pluies vont se transformer en averses, on dirait que c'est un peu la même chose, mais enfin elles seront un peu plus entrecoupées d'éclaircies dans le courant de l'après-midi avec des orages et des températures qui sont en baisse entre 13 et 18 degrés.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Très bon réveil à tous. Votre journée démarre avec un premier journal. On écoute Le Monde changer. Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h.
On est tous satisfaits de pouvoir reprendre le travail, de faire revenir nos employés, rouvrir nos portes, rallumer les lumières, mettre la musique et voilà, et d'accueillir nos clients.
Le bout du tunnel pour les cafetiers et restaurateurs. Ils pourront rouvrir les terrasses dès le 19 mai, les salles à partir du 9 juin. Emmanuel Macron a détaillé hier le calendrier complet du déconfinement pour tout le monde. Les premiers cas de variant indien détectés en métropole, des cas isolés de retour d'Inde. L'hommage national à la policière tuée par un radicalisé il y a une semaine. Discours de Jean Castex, la ville de Rambouillet, lieu du drame, se prépare.
À suivre votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera à Nice chez notre boulanger connecté Frédéric Roy pour les doigts dans l'assiette. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était sans doute le calendrier le plus attendu de l'année.
Emmanuel Macron a dévoilé les dates auxquelles sont rattachées chacune des levées de restrictions imposées depuis des mois. Couvre-feu, bars et restaurants, lieux de culture et salles de sport. Un agenda découpé en 4 étapes, Hélène Terzian.
Oui, et la première étape était connue, lundi, retour en classe des collégiens et lycéens en demi-jauge à partir de la 4e. Ce sera aussi la fin des restrictions de déplacement, plus besoin donc d'attestation en journée. Deuxième étape, le 19 mai. C'est à cette date que rouvriront les terrasses, avec 6 personnes maximum à table, mais aussi les commerces, musées, cinémas, théâtres et les lieux sportifs. Jauge fixée à 800 personnes en intérieur, 1000 en extérieur. Ce jour-là, le couvre-feu sera décalé à 21h. Il passera à 23h le 9 juin. Il s'agit là de la troisième étape autour des cafés et restaurants de rouvrir, tout comme les salles de sport. Les lieux de culture et lieux sportifs pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes, mais pour accéder au stade, festival ou salon, il faudra un pass sanitaire, prouver que l'on est vacciné ou testé négatif dans les moins de 48 heures. Dernière étape, le 30 juin, avec levée totale du couvre-feu et fin des jauges dans les établissements recevant du public, il sera possible d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur, toujours munis du pass sanitaire.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Et parmi les commerces symbolisant la convivialité retrouvée, il y a bien sûr les cafés et restaurants qui vont commencer par ouvrir leurs terrasses le 19 mai, avant le 9 juin donc de pouvoir servir aussi leurs clients en salle. À Lyon, le reportage auprès des professionnels du secteur, Jean-Luc Boujon.
En apprenant la réouverture des terrasses le 19 mai, les restaurateurs lyonnais ont poussé un grand ouf de soulagement. Enfin, on va pouvoir refaire ce qu'on aime, se réjouit Thibaut Salva, patron de 3 restaurants à Lyon.
On est tous satisfaits de pouvoir reprendre le travail, de faire revenir nos employés, rouvrir nos portes, rallumer les lumières, mettre la musique et voilà, et d'accueillir nos clients.
Mais la date la plus importante, c'est bien le 9 juin, lorsque les bars et les restaurants rouvriront entièrement, y compris en intérieur, et surtout avec un couvre-feu repoussé à 23h, ce qui plaît beaucoup à Geoffrey Clavel, patron du bar Le Commerce dans le 7e arrondissement.
Ça c'est super cool, le 9 juin on aura presque un bout de vie quasiment normal, c'est formidable, on pourra presque dîner complètement du coup, prendre le dessert et le café, donc vivement le 9 juin.
Dans la foulée, la ville de Lyon a aussi voulu marquer son soutien aux bars et aux restaurants. Valentin Lugenstrasse est adjoint aux espaces publics.
On va étendre les terrasses sur les trottoirs tout en respectant vraiment les cheminements piétons et puis sur les terrasses sur stationnement, oui, ces extensions seront gratuites pour respecter d'une part la distanciation physique mais aussi en guise de soutien économique pour les restaurateurs.
Et toujours dans cette logique d'aide, la ville a aussi annoncé son intention de pérenniser ce système de terrasses toute l'année. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Mais pendant ce temps, l'épidémie n'a pas totalement tiré le rideau.
Que ce soit dans le monde ou le Brésil, qui a développé un variant, a franchi hier le cap des 400 000 morts, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis, ou encore en Inde, qui vit aussi une situation critique et qui a recours à l'aide internationale. Et justement, ce variant indien, dont on parle depuis plusieurs semaines et qui avait déjà été détecté en Europe, vient de faire son apparition officielle sur notre territoire, Nicolas Feldman.
Oui, le premier cas est une femme résidant dans le Lot-et-Garonne, de retour d'Inde avant le renforcement des mesures de sécurité aux frontières. D'abord testée positive le 9 avril, elle est mise à l'isolement et ce n'est qu'après que le CHU de Toulouse identifie ce fameux variant indien. Les deux autres cas, on les retrouve dans les Bouches-du-Rhône, deux personnes sans lien l'une avec l'autre, toutes les deux rentrées d'Inde. Elles sont testées positives au début de leur quarantaine. Alors faut-il s'inquiéter de ces premiers cas en France ? Yannick Simonin, virologue à l'INSERM.
Le variant indien, il ne faut pas du tout être paniqué par rapport à sa présence. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'il va se propager ? Est-ce qu'on va retrouver des clusters ? Ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse actuellement. Mais il y a quand même des études qui suggéreraient qu'il serait moins contagieux que le variant britannique. Est-ce qu'il va réussir à faire sa place au milieu de tous ces variants ? Pour l'instant, on n'a pas d'indication qui suggérait que ça puisse être le cas.
Et ces derniers jours, d'autres cas suspects chez des personnes revenant d'Inde ont été signalés en France. Les laboratoires d'analyse poursuivent le séquençage des prélèvements pour déterminer la présence ou non de ce variant.
Nicolas Feldman pour Europe 1. En réanimation en France, les chiffres décroissent lentement. 5800 patients sont toujours hospitalisés. 321 malades du Covid sont morts à l'hôpital ces 24 dernières heures.
Ce sera à 10h30 ce matin. Hommage national cette fois à la junte administrative du commissariat de Rambouillet, assassiné par un radicalisé la semaine dernière.
Jean Castex va présider cette cérémonie officielle et prononcer un discours. Le Premier ministre remettra la Légion d'honneur à titre posthume à Stéphanie Montfermet. Elle avait 49 ans. La ville de Rambouillet et ses habitants se préparent à lui rendre ce dernier hommage. Reportage sur place, Johanna Chabas.
À 100 mètres du commissariat, l'estrade est installée devant le monument aux morts, sur une grande place pour accueillir les membres du gouvernement et les nombreux habitants qui veulent suivre cet hommage. Danielle est sage-femme. Elle a fermé son cabinet pour la matinée afin d'assister à la cérémonie.
Je me dois de rendre hommage. J'aurais du mal à travailler en sachant que ça fait une semaine qu'elle est décédée. C'est la pensée qui compte, ne pas oublier surtout. Cette femme qui a consacré sa vie à la France, qui laisse des enfants qui n'ont pas mérité cela.
La cérémonie doit doit durer une heure, avec un discours du Premier ministre, une minute de silence, une Marseillaise et la remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage très solennel et qui devrait trancher avec celui de lundi soir à la mairie, jugé trop court par beaucoup d'habitants comme Sylvie.
Je ne sais même pas si ça a fait 8 minutes. Apparemment, c'est la famille qui le souhaitait et je comprends tout à fait, quoi. Mais bon, il y a pas mal de politiques qui s'étaient déplacées. J'ai cru quand même que M. Darmanin ferait un petit mot, sachant qu'elle était sous ses ordres, ça aurait été bien.
Aujourd'hui, elle espère que l'hommage sera à la hauteur pour que cette policière ne tombe jamais dans l'oubli. Rambouillet, Johanna Chabas, Europe 1.
Les 9 anciens membres de l'extrême gauche italienne condamnés pour terrorisme en Italie et dont 7 avaient été interpellés par la justice et la police française cette semaine ont tous été entendus par un juge. Les demandes d'extradition vers l'Italie validées par l'Élysée, une première depuis les années 80, sont en cours d'examen. En attendant, ils ont tous été relâchés et placés sous contrôle judiciaire avec la remise de leurs pièces d'identité. L'Europe ouvre la porte aux OGM. Il s'agit de plantes issues de nouvelles technologies génétiques qui résistent mieux à la sécheresse ou à certaines maladies. Isabelle Horry, malgré les craintes des écologistes, Bruxelles souhaite pourtant favoriser l'essor de ces biotechnologies d'avenir.
Oui, à la demande des 27 capitales, la Commission européenne a étudié ces nouveaux OGM. Sa conclusion, c'est une innovation importante, un virage que l'Europe ne doit pas rater. Aujourd'hui, les organismes génétiquement modifiés sont ultra encadrés. Étiquetage, traçage, surveillance. Mais voilà, ce cadre législatif a 20 ans, depuis les techniques ont évolué. Avant, on insérait un gène étranger dans une plante. Désormais, on modifie les gènes de la plante avec les fameux ciseaux génétiques qui ont valu un prix Nobel à une chercheuse française. Les partisans de ces techniques expliquent qu'il y a moins de risques car ces mutations ressemblent à ce qui se passe dans la nature, sauf que ça va beaucoup plus vite. Les nouvelles plantes résistent mieux au changement climatique, ne déclenchent plus d'allergies ou nécessitent moins de pesticides. Bruxelles envisage donc une nouvelle législation plus souple. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent déjà, ils dénoncent une remise en cause du principe de précaution. Les ministres européens de l'agriculture discuteront de ce sujet le mois prochain.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Une bousculade géante lors d'un pèlerinage juif orthodoxe rassemblant des milliers de personnes dans le nord d'Israël a fait 44 morts. C'est ce qu'indiquent ce matin les secouristes dans leur dernier bilan. Ce pèlerinage à Méron était le premier de grande ampleur. 10 000 personnes autorisées par les autorités depuis le début de la pandémie Covid-19.
Enfin, c'est un dessin animé que certains connaissent, mais c'est aussi et d'abord un livre.
Souvenir de Marnie, un film d'animation japonais adapté d'un roman jeunesse où une petite fille envoyée sur l'île d'Hokkaido va se lier d'amitié avec l'étrange Marnie. Cette histoire est tirée d'un roman britannique de Joanne Robinson qui vient d'être traduit en français. Nicolas Caro.
Souvenir de Marnie, c'est l'un des romans préférés de Miyazaki, le grand dessinateur et producteur Chihiro, Totoro et autres Ponyo. Tout naturellement, ce sont donc ces studios Ghibli qui ont adapté ce classique anglais en 2014.
Comment t'appelles-tu ?
Anna. Je suis heureuse que tu sois là. J'avais une très grande envie de te connaître. Pas toi ?
Le livre est sorti en 1967 et étrangement, il n'avait jamais été traduit en français jusqu'à maintenant. Ce sont les éditions Monsieur Toussaint Louverture qui s'en sont emparées. La couverture donne le ton et l'atmosphère. Au fond, un ciel rose au coucher du soleil, une maison au loin et au premier plan, une rivière, une jeune fille est de dos, debout sur une barque. Elle est seule, mais dans le reflet de l'eau, on voit deux personnages. Sur la barque, c'est Anna, une jeune orpheline. Elle est rêveuse, distraite et solitaire, parfois Marnie surgit et les deux deviennent amis. Mais Marnie disparaît souvent aussi vite qu'elle est apparue. Existe-t-elle vraiment ? C'est un sublime roman poétique sur l'enfance, sur la difficulté et la nécessité de s'ouvrir aux autres.
C'était le conseil de Nicolas Caro, spécialiste des livres à Europe 1.
Dans le journal de Chloé Triomphe. Merci Chloé, il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Avec Julien Froment, bonjour Julien.
Bonjour Théo.
La 35e journée de Ligue 1 ce soir et l'OM qui veut continuer de croire en ses rêves européens.
Effectivement, Marseille 6e au classement reçoit au Vélodrome Strasbourg. Les Marseillais intraitables à domicile depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. 4 matchs, 4 victoires, mais qui vont affronter eh bien, une formation strasbourgeoise encore loin d'être sauvée et qui performe à l'extérieur. D'où la méfiance du milieu de terrain Valentin Rongier.
Les équipes qui luttent pour le maintien, elles jouent avec leur trip. Et voilà, c'est leur métier. Ils savent très bien que le fait de descendre en Ligue 2, c'est pas bon pour leur club, c'est pas bon pour les supporters, mais aussi pour leur carrière personnelle. Donc je pense que voilà, avec beaucoup d'ego, les joueurs se donnent jusqu'au bout et peut-être avec un brin de plus de motivation que les matchs du début et du milieu de saison. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ouais, c'est là où c'est le piège. Parce que nous aussi, on a des objectifs à aller chercher en ayant autant, si ce n'est plus, de motivation que ces équipes-là. L'objectif, vous le connaissez, c'est de se qualifier en Europa League.
Valentin Rongier au micro de Stéphane Frangieux à Strasbourg, coup d'envoi à 21h. Et puis demain, la lutte pour le titre se poursuivra avec à 17h PSG Lens et à 21h Lille-Nice.
Une Ligue 1, Julien, qui pourrait se jouer à 18 clubs dans un avenir très proche.
Oui, une configuration qui a déjà existé entre 1997 et 2002. À l'époque, l'idée était de mieux préparer les joueurs en vue de la Coupe du Monde 98. Là, le contexte est tout à fait différent. La crise du Covid, la faillite Mediapro pousserait la LFP à modifier le format du championnat de France. Une réforme évoquée au conseil d'administration et bien reçu par Philippe Pia, président du syndicat des joueurs qui s'élève contre les cadences infernales.
Le calendrier est un problème majeur pour nous, national et international. Le foot, il devient de plus en plus dur, donc plus de blessures, etc. Donc oui, c'est le problème numéro un des joueurs, c'est le calendrier.
Philippe Pia au micro de Cyril de la Morinerie. Alors si la Ligue 1 devait passer à 18, ce ne serait pas avant la saison 2022-2023. Enfin un mot de Ligue Europa, les demi-finales d'aller. Manchester United, un pied et quatre orteils en finale après sa victoire 6-2 contre l'AS Roma. Et puis du côté de Villarreal, succès des Espagnols face à Arsenal 2-1.
On change de ballon, Julien Froment place au rugby avec le 15 de France féminin face à sa bête noire, l'Angleterre.
Oui, une petite semaine après sa défaite en finale du tournoi Destination, donc contre le 15 de la Rose, la 8e défaite d'affilée, et bien les Bleus repartent au combat ce soir du côté de Lille. Alors question toute simple, pourquoi rejouer les Anglaises aussi rapidement? La réponse du sélectionneur Stéphane Aymard.
On l'a pas mis là par hasard. Le match n'est pas tombé, on s'est pas levé un matin en disant tiens, si on les jouait deux fois de suite. Si on a choisi ce format-là, c'est que dans un an à la Coupe du Monde, c'est potentiellement ce qui peut arriver. Tu vas finir ton dernier match de poule contre les Anglaises, tu vas jouer potentiellement un quart de finale derrière contre une grosse équipe. Avec déjà un mois de compétition que tu auras vécu en amont, et tu vas te retrouver exactement dans le cas de figure. Du coup, jouer ce match-là, c'est anticiper les choses, les planifier, voir comment on digère la chose en termes de projection, de planification, de comment construire un groupe pour la Coupe du Monde 2022, pouvoir appréhender ce genre d'événement, ça a beaucoup de sens.
Le sélectionneur du 15 de France, Stéphane Aymard, France-Angleterre, coup d'envoi du crunch ce soir à 21h au Stadium de Villeneuve-d'Ascq. Et puis chez les garçons, là c'est du top 14, Castres fait un grand pas vers les barrages, victoire hier sur la pelouse de Bayonne, 26-23.
Merci Julien, à tout à l'heure. Place aux courses, à présent avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 512 Freeman de Well. Irrésistible au plus haut niveau, ce qui lui a permis d'engranger 221 600 euros depuis le début de l'année. Ce trotteur âgé de 6 ans est sans aucun doute actuellement l'un des meilleurs de sa génération. Il ne devrait donc avoir aucune difficulté sur sa lancée à enchaîner les bonnes performances. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 12, Freeman de Well.
Merci, c'est bien noté Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Il est 5h14, on ouvre dans un instant notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse. Julien Froment, qu'est-ce qui vous a marqué au sens propre comme au figuré ce matin?
C'est bien vu ça, on va parler de tatouage, mais un tatouage éphémère.
A tout de suite.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
5h15, l'essentiel ce matin. Levée des restrictions de déplacement le 3 mai, lundi prochain. Ouverture des terrasses, des musées, théâtres et cinémas le 19. Des salles de restaurants le 9 juin, avant une levée du couvre-feu le 30 juin. Voilà les 4 étapes du calendrier de déconfinement détaillé hier par Emmanuel Macron. Les premiers cas de variants indiens en France, ils ont été détectés sur des personnes de retour d'un séjour sur place. Pour l'instant, les épidémiologistes ne savent pas quelle place il va prendre parmi les autres variants. L'hommage à Stéphanie, l'agente administrative du commissariat de Rambouillet, tuée vendredi dernier par un radicalisé. Cérémonie qui se tiendra à 10h30 dans sa ville en présence du Premier ministre Jean Castex.
Europe 1, Théo Manval.
Allez, il est l'heure d'ouvrir notre pressing du jour avec Julien Froment et Charlotte Barécan. Et pour commencer, comme chaque matin, la une de vos journaux, son plan pour rouvrir la France. Sans surprise, Emmanuel Macron, évidemment, à la une d'aujourd'hui en France et d'une grande partie de vos journaux en région. Interview à la presse quotidienne régionale pour donner les détails du déconfinement à venir qui ont très largement fuité, on vient de vous en parler. Le bout du tunnel, titre La Montagne et le Berry républicain. Quatre étapes vers la liberté, énumère le bien public. Un cap clair, surtout, salut pour leur part Les Échos, qui précise que les entreprises vont rester vigilantes sur les aides et note que le président promet aussi un deuxième temps de la relance. Emmanuel Macron, qui est élu de la présidentielle dans cette interview à la PQR, il ne faut pas commettre de faute de temps, dit-il. Mais le scrutin est déjà dans toutes les têtes et à la une du Figaro et de La Croix ce matin. Le Figaro qui poursuit sa campagne assumée contre une candidature d'Anne Hidalgo à gauche sur le thème de la saleté de Paris. Et La Croix qui décrypte l'image toujours plus lissée de Marine Le Pen pour sa troisième tentative d'accéder à l'Elysée. Hollywood sur Var, la Provence revient elle ce matin sur l'achat par Georges Clooney d'un domaine viticole à Brignoles. L'affaire Sarah Halimi interroge toujours Libération et La Nouvelle République en une ce matin. Quant à L'Équipe, le journal sportif espère un appel d'air avec le retour du public dans les stades petit à petit. Les trois jauges prévues en mai, mi-juin et fin juin comme autant de bouteilles d'oxygène pour des clubs aux finances exsangues et des passionnés en mal de frissons collectifs. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin, et donc c'est dans Libération du jour, Julien, direction un salon de tatouage un petit peu particulier à New York.
Effectivement, qui n'a jamais rêvé de se faire tatouer, mais pas pour la vie, c'est le titre de cet article dans le Libération du jour, signé Katia Touré. Une start-up américaine, Ephemerol, propose en effet des tatous, comme son nom l'indique, éphémère, avec... Après plusieurs tentatives, les fondateurs, sont parvenus à créer une encre composée de polymères biodégradables qui se dissout au bout de 9 à 15 mois après injection. Donc en gros, Théo, vous vous installez, vous vous faites tatouer au hasard les cuissons de l'Est Saint-Étienne et vous le conservez une saison, pratique si le club descend en Ligue 2, après
par
ça disparaît.
Exemple.
Alors ce tatouage éphémère a un coût entre 145 et 372 euros,
quand
c'est
même
cher. Mais ça permet d'assumer un peu plus les motifs de licorne ou de papillon, ça c'est pour vous Charlotte, on sait jamais. Alors sachez que d'autres procédés existent, comme l'encre de jaguar ou l'encre dite australienne, durée de l'expérience une dizaine de jours, mais le plus simple, eh bien, c'est de ne pas se faire tatouer, hein, si vous n'êtes pas sûr, ou d'utiliser ce bon vieux tatouage malabar.
Effectivement, mais ça peut être pour effectivement les gros ratés qu'on voit parfois, on serait content d'avoir opté pour le tatouage éphémère.
C'est
donc dans Libération du jour. Merci Julien. On sait que l'année a été très éprouvante pour les jeunes, les étudiants, les lycéens. Mais vraiment, c'est pas beau de tricher sur Parcoursup. C'est le Parisien qui nous révèle cette affaire de mention déloyale sur la plateforme en ligne d'orientation. En fait, ce sont pas directement les lycéens qui resquillent, mais leurs établissements dans la case réservée aux proviseurs et aux professeurs principaux. En effet, certains précisent en majuscule que tel ou tel élève a suivi ses cours 100% en présentiel pendant cette année scolaire. C'est une façon de laisser entendre qu'il serait meilleur que les élèves d'un autre lycée, donc qui auraient eu cours en partie à distance. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces lycées ? Eh bien parce qu'ils espèrent que les examinateurs qui trieront les candidatures pour les filières les plus sélectives en tiendront compte, favoriseront leurs élèves. Or, c'est strictement interdit. Ça va fausser la sélection, s'alarme déjà le syndicat enseignant SNES-FSU, qui constate de telles mentions dans absolument toutes les académies. Surtout de la part de lycées privés, nous dit-on, mais certains établissements publics ne sont pas en reste. L'éducation nationale a en effet laissé libre les établissements d'organiser comme ils le voulaient l'enseignement hybride avec la pandémie. Certains ont choisi de mettre plutôt les secondes et les premières en école à distance et de garder leur terminale en présentiel. D'autres ont mis toutes les classes à la même enseigne. Et du coup, certains élèves s'inquiètent aujourd'hui. C'est scandaleux, dit par exemple Antoine en terminale à Limoges. Il a fait beaucoup de distanciel et il pense aujourd'hui ne pas se battre à armes égales avec les autres candidats, d'autant qu'il a choisi une filière très sélective pour l'an prochain. On ne devrait pas être lésé à cause des choix de notre proviseur, s'en porte un autre lycéen de Seine-Saint-Denis. Au ministère de l'Éducation nationale, on assure que personne ne tiendra compte de ces mentions interdites, mais il faut le croire sur parole. Or, certains examinateurs ont déjà des doutes sur les arbitrages de certains de leurs collègues. On n'a pas fini d'en entendre parler d'ici la fin de l'année scolaire. On va rester dans le domaine du numérique avec vous, Charlotte Barécan, pour terminer.
Oui, avec un article de Slate au titre accrocheur, les algorithmes des plateformes de streaming musical mettraient plus en avant les artistes masculins. Alors, on remet un vaste sujet sur la table, mais l'industrie musicale n'échappe pas
n'échappe pas non plus au sexisme. Sur Spotify, Deezer ou Apple Music, il faudrait attendre la 7e ou la 8e chanson pour qu'une artiste nous soit proposée. C'est le MTG, un groupe de recherche de technologie musicale à Barcelone, qui a mené l'enquête sur près de 330 000 utilisateurs pendant 9 ans. Et conclusion, seulement 25% des artistes écoutés étaient des femmes.
Un quart seulement, c'est vraiment pas grand-chose.
Et c'est, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée une sorte de boucle à travers les habitudes d'écoute qui sont donc composées à 75% d'artistes masculins. L'algorithme fait des suggestions de musique qui sont très souvent écoutées et il en tire des conclusions. C'est bête et méchant, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus les suggestions sont écoutées, plus ce phénomène s'accentue.
9 ans d'études donc sur 330 000 personnes, est-ce qu'on a trouvé des solutions pour inverser la tendance?
Alors, c'est un peu technique, mais oui, il faut que l'algorithme soit modifié. Dans la liste de ces suggestions, il faut descendre de quelques rangs les artistes masculins. Progressivement, cela donnerait plus de visibilité aux femmes. Une simulation a déjà été faite et les premiers retours sont positifs. Les artistes féminine remonte peu à peu dans l'algorithme qui, sur toujours le même principe, en tire de nouvelles conclusions, ce qui est très encourageant pour la suite.
Merci Charlotte Barécan, en tête de l'algorithme du pressing ce matin. Merci Julien Froment. Je vous dis à tout à l'heure.
Europe 1, Théo Manval.
Il est 5h22 et nous sommes à Nice ce matin pour les doigts dans l'assiette, près des fourneaux de notre boulanger Frédéric Roy. Bonjour Frédéric.
Bonjour Théo, bonjour à tous les auditeurs.
Comment ça va ce matin?
En pleine forme.
Vous avez décidé de lancer une initiative, Frédéric, pour mieux faire connaître les métiers d'artisan aux consommateurs. Racontez-nous.
Bah, disons qu'on est parti un peu du principe des doigts dans l'assiette, quelque part, sauf que nous, on va le mettre en format vidéo.
C'est complémentaire.
Ouais, disons qu'on est vraiment trois couples de passionnés. Donc, on a Sabine et Jean-Pierre Coq, qui sont un couple de boulangers d'Aubigny-sur-Nère, dans le Cher. Et donc, Isabelle et Pascal Wozniak, qui sont à Lombeil dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc moi, à Nice, avec mon épouse Katia, on a vraiment décidé de faire partager notre quotidien d'artisan boulanger directement aux consommateurs à travers la plateforme Facebook sur une page. Et parallèlement, on a fait un petit groupe en partant de cette même page pour y rassembler les artisans et commerçants de notre filière, puisque l'idée, c'est de nous de montrer notre quotidien, mais aussi de montrer le quotidien de nos agriculteurs céréaliers. Moi, je sais que j'ai des œufs bio qui viennent de la région niçoise. Je vais essayer de voir si elle peut nous filmer ses poules, comment elle élève ses poules. Et on va dire même des bouchers, des restaurateurs, puisque nous, artisans, on travaille aussi avec des restaurateurs, puisqu'on les fournit en pain. Donc, eux aussi pourront nous montrer leur quotidien, la vérité, comment on travaille pour vraiment le consommateur puisse se rendre compte de la valeur des choses que l'on fabrique et surtout comment on les fabrique. Surtout qu'avec la crise du Covid, on s'est aperçu que les gens sont à la recherche, veulent comprendre, posent des questions. Donc à travers cette plateforme, bah, on va dire qu'on va essayer de leur apporter les réponses.
Sur tous les métiers, hein, ceux qui vous approvisionnent, votre travail à vous et ceux que vous approvisionnez ensuite. Je vais donner l'adresse de cette page Facebook. Si je ne dis pas de bêtises, c'est artisan-consommateur.la-nouvelle-connexion. Qu'est-ce qu'on y voit? Vous avez déjà publié quelques vidéos?
Oui, on fait les présentations. Le couple à Lombeil dans les Pyrénées-Atlantiques qui se sont présentés, donc Pascal et Isabelle. Et là, hier soir, on a notre amie Sabine qui, en tant qu'artisan boulangère, parce que l'originalité de cette personne, Sabine, c'est qu'elle est autant au fournil en tant que boulangère qu'au magasin comme vendeuse.
D'accord.
Donc ça va aussi permettre de montrer que dans notre métier, les femmes sont énormément présentes.
Bien sûr.
Moi, ma femme au magasin, elle y est tous les jours de 7h le matin jusqu'à 20h, enfin, puisqu'en temps normal, on ferme à 20h. Et c'est vraiment l'entièreté du côté des difficultés aussi, montrer quel est notre travail, parce que voilà, on voit souvent la boulangère pendant 2 minutes quand on va au pain, mais tout le monde ne se rend pas compte que dans beaucoup de cas, les femmes artisanes boulangères travaillent énormément, largement autant que leur mari.
Avec elles, des horaires décalés qui sont vraiment très difficiles.
Avec des amplitudes horaires inimaginables. Et c'est vraiment tout ça qu'on voudrait monter. Mais pour nous, c'est pas une grande, grande difficulté de faire toutes ces heures, puisque être un artisan aujourd'hui, c'est plus une manière de vivre comme un paysan qu'un travail. Alors, on aime notre travail, c'est ce qui fait qu'on parvient à assumer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes difficiles, il y a des périodes joyeuses, il y a vraiment on passe par toutes les phases et c'est vraiment toutes ces phases qu'on aimerait partager avec les consommateurs.
Donc vous filmez aussi les coulisses de votre travail au quotidien, en outre de vos explications. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de consommateurs ou de certains clients dans les commentaires sur Facebook?
Ah oui, ça commence. Alors on a commencé, c'est tout nouveau, hein, je veux dire, ça fait moins d'une semaine qu'on a démarré, mais si vous allez donc sur la page que vous avez citée, vous allez commencer de voir donc les premiers commentaires des personnes. Et là, on va passer au stade au-dessus, puisqu'on va se faire un site internet, on va se faire une chaîne YouTube, on va peut-être se faire un compte Twitter pour vraiment partager au maximum notre quotidien. C'est vraiment la partie la plus intéressante, quoi.
On est ravis d'accompagner cette version numérique et vidéo des Doigts dans l'assiette, comme vous l'avez dit. Je redonne la page Artisan Consommateur, la nouvelle connexion. Frédéric Roy, notre boulanger à Nice, à l'origine de cette belle initiative. Merci Frédéric, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Le reste, c'était Clara Luciani sur Europe 1. Laurent Cabrol, le temps de cette fin de semaine et c'est en partie arrosé ce vendredi.
Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, les pluies se sont réfugiées dans le sud et dans l'est de la France. Il pleut sur le Languedoc, l'Auvergne, la Franche-Comté, des pluies assez conséquentes sur les Alpes et la Méditerranée. En bordure de Méditerranée, d'ailleurs, elles seront encore présentes cet après-midi. Sur les autres régions, on peut dire que les pluies vont se transformer en averses. Ça n'est pas forcément la même chose, puisque dans les averses, il y a aussi des éclaircies. Et un temps plutôt agréable quand même, près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Sur la région parisienne, allez, une averse, pas plus. Près des frontières du Nord et du Nord-Est, également des averses avec des éclaircies. Là y compris, donc plus on va vers le Nord et plus c'est calme, plus on va vers le Sud et plus ça s'agite. Voilà. Les températures maximales sont en baisse, elles vont s'échelonner entre 13 et 20 degrés. 20 degrés à Carcassonne, 13 degrés à Cherbourg, en passant par 14 à Caen et à Lille, 15 degrés à Clermont-Ferrand, nous atteindrons 16 à Bordeaux, Rennes, Nantes, Bourges et Limoges, 17 à Paris et 19 degrés à Marseille.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1. Un nouveau journal tout de suite. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h29.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Une libération alors que la France se prépare au déconfinement. Certains retrouvent déjà une vie normale, comme dans cette EHPAD de la Nièvre où, à la faveur de la vaccination, un grand banquet vient d'être organisé. Le déconfinement en 4 étapes, annoncé par Emmanuel Macron, passe sanitaire obligatoire dès le 9 juin pour les grands événements, reprise dans le monde de la culture à partir du 19 mai. Dans ce journal aussi, l'hommage national à la policière de Rambouillet, débuter ce vendredi. Et la Ligue 1, en version réduite, non plus 20, mais 18 ou même 16 clubs. La piste est à l'étude. Explication à suivre.
Dans 10 minutes, les départements de France pas égaux devant le confinement. Le statisticien Gérard Moreau vient de vous détailler la toute dernière étude de l'INSEE qui montre que les territoires agricoles, par exemple, ont mieux résisté que les zones de montagne ou que la région de la capitale. Et puis la France Bouge nous emmènera en Mayenne ce matin. Très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Célébrer la vie et le vivre ensemble, c'est ce que chacun d'entre nous pourra bientôt faire. On va y revenir dans un instant, mais c'est déjà ce qu'un EHPAD de la Nièvre a pu organiser dès hier.
Avec 96% des résidents et 86% du personnel vacciné, un grand banquet a pu se tenir hier dans cet établissement de Varennes-les-Narcy, avec même pour l'occasion un chef spécialement invité et la chanceuse Caroline Baudry qui a assisté pour Europe 1.
Bougère, au Vieux-Comté, crottade chavignole aux morilles, vous vous rendez compte ?
Un menu d'exception pour un jour de fête. Claudette, 84 ans, a tombé le masque et sorti ses plus beaux habits. Sur les tablés, des nappes rouges, des bouquets printaniers et du champagne pour oublier cette année d'isolement à l'EHPAD.
Ça nous réveille un peu parce que ça avait été bouclé à cause des maladies. Coronavirus, c'est ça. Tous les gens sont heureux, tout le monde est content. Hein.
Bah, il faut garder un peu de place, il y a le dessert qui arrive.
Une pièce montée sans nougatine, plus facile à mâcher, confie le chef dans un sourire. Un dessert de gala pour les 74 résidents assis côte à côte et leurs soignants comme Catherine.
Avant, chacun était dans leur chambre et on les servait en chambre et l'appétit n'y était plus, quoi. Donc là, découvrir un repas comme ça, tous ensemble, bah, je trouve que c'est super.
Et ce n'est pas Raymond, bientôt 100 ans, assis dans son fauteuil roulant, qui dira le contraire.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Une libération pour Raymond qui rêve déjà de son prochain repas, entouré de ses 13 petits-enfants. À Varennes-les-Narcy, dans la Nièvre, Caroline Baudry, Europe 1.
Des repas en famille dont se prennent aussi à rêver de nombreux Français. Dès lundi, fin des restrictions de déplacement. L'étape suivante, selon le calendrier présenté par Emmanuel Macron, ce sera le 19 mai, réouverture des terrasses, mais aussi des musées, des cinémas ou des théâtres. Et même si la jauge sera limitée, il faudra marquer le coup ce jour-là pour Jean-Marc Dumontet, dont les établissements sont fermés depuis 6 mois.
On est tourné vers cette perspective magnifique de voir nos salles à nouveau vibrer. Le 19 mai, dans tous mes théâtres, on jouera, parce que symboliquement, le 19 mai, on doit faire cette grande fête du théâtre, cette grande fête du retour à la vie. Ensuite, mon planning, il est avec les comédiens, il est avec les metteurs en scène, pour voir ce qu'on peut véritablement mettre à l'affiche le plus rapidement possible. Et les enjeux ne sont pas les mêmes dans une salle de 100 places ou de 900 places. On aura des contraintes, mais ce qui est important, c'est que enfin on réenclenche, enfin on redémarre. Et je pense qu'il faut donner une impulsion. Ce qui est le plus important, c'est d'envoyer un signal très fort aux Français. Le spectacle vivant redémarre.
Le producteur de théâtre Jean-Marc Dumontet au micro Europe 1 de Nicolas Feldman.
19 mai également, réouverture des commerces. Une date jugée un peu trop tardive par le syndicat des TPE et PME de l'habillement. Éric Metz, son président, aurait préféré que le rendez-vous soit donné dès le 10 mai, c'est-à-dire avant le week-end de l'Ascension.
C'est une véritable catastrophe. Une réouverture le 19 mai va définitivement condamner la marge que nous aurions pu faire sur la saison de printemps et d'été. Ça va probablement ouvrir très rapidement la vente à perte ou l'avancement de la date des soldes du 23 juin au 19 mai. Ils vont rouvrir le 19 mai avec des collections de printemps qui n'auront absolument pas été vendues. Et donc, ils vont effectivement être obligés de faire des promotions. Et pour la deuxième année consécutive, on va se retrouver avec une saison blanche sur la partie printemps-été. Ça va devenir non pas compliqué, ça l'était, ça va devenir insoluble.
Le président d'Allure, syndicat des TPE et PME de l'habillement, il répondait pour Europe 1 à Clément Le Saffre.
La troisième étape du déconfinement ensuite, ce sera le 9 juin, une date dont on retient qu'elle marquera l'extension du couvre-feu à 23h, mais aussi, Rémi Bossaron, l'instauration d'un pass sanitaire.
Oui, à partir du 9 juin, on en aura impérativement besoin pour participer à tous les grands événements, ceux qui rassemblent jusqu'à 5000 personnes. Concrètement, pour aller voir un match de football dans un stade, assister à un concert, se balader dans les allées de salons ou de foire, il faudra présenter ce pass sanitaire, un certificat qui prouve qu'on a fait un test PCR négatif il y a moins de 48 heures ou qu'on est vacciné. Cette preuve, elle se trouvera soit dans l'application Tous Anti-Covid, soit en version papier. Dans ce cas-là, il faudra demander un document au soignant qui a fait le test ou la vaccination. En revanche, Emmanuel Macron ne souhaite pas rendre ce pass obligatoire pour accéder à ce qu'il appelle les lieux de vie de tous les jours. Pas nécessaire donc pour aller boire un verre en terrasse, dîner au restaurant, aller chez des amis, au théâtre ou au cinéma. Ce pass, les touristes touristes étrangers qui veulent séjourner en France devront le présenter dès leur arrivée dans le pays, également à partir du 9 juin.
Les précisions de Rémi Bostaron pour Europe 1 le 9 juin, qui verra aussi le télétravail assoupli. La dernière étape, ce sera le 30 juin avec la fin des jauges et du couvre-feu.
À retenir aussi, Marion Gallet, de l'interview du chef de l'État dans la presse régionale, l'ouverture de la vaccination dès demain à tous les adultes en surpoids.
Et puis, on l'a appris hier soir, 3 premiers cas de variant indien détectés en France, dans le Lot-et-Garonne et les Bouches-du-Rhône. Plusieurs autres cas suspects sont en cours d'analyse.
5h35 sur Europe 1, un hommage national rendu aujourd'hui à Rambouillet, une semaine après l'attaque terroriste au commissariat qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police.
Le Premier ministre participera ce matin à la cérémonie, discours et remise de la Légion d'honneur à titre posthume. La présence de Jean Castex, salué par le directeur de l'Amicale de la Police Nationale, Marc Silvera.
Bien évidemment, c'est un symbole fort. Et je pense que la cérémonie va être, c'est peut-être pas le mot plus grand, mais voilà, c'est pour remarquer encore une fois les esprits et pour remontrer le total soutien de l'État face à cette situation. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre la famille, le ministère de l'Intérieur. Voilà, tout ce qu'ils veulent, je pense, c'est d'être épaulés, accompagnés, voilà, et orientés de la meilleure façon possible. Ils ont perdu quelqu'un de proche, c'est une famille endeuillée, c'est une profession tout entière, c'est un ministère qui souffre. J'espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience, mais vraiment, il faudra faire face et continuer le combat.
Le directeur de l'Amicale de la Police Nationale avec Justin Morin. Ce sont des chiffres qui ont été dévoilés hier par le ministère de l'Intérieur. Les chiffres de l'insécurité et de la délinquance qui en disent un peu plus sur l'augmentation l'an dernier des violences intrafamiliales. Gladys Laffitte.
Oui, concernant les victimes de ces violences intrafamiliales notamment, ce sont à 85% des femmes, un chiffre à mettre en regard avec les auteurs qui sont à 87% des hommes. A contrario, en ce qui concerne les victimes de coups et blessures en dehors du cadre familial, eh bien ce sont pour les deux tiers des hommes. On le sait, en 2020, les violences sexuelles ont aussi beaucoup augmenté, notamment les viols, plus 11%, un chiffre qui s'explique par la libération de la parole des victimes et le fait qu'elles portent plus plainte. C'est aussi pour ça que les statistiques augmente. Toujours concernant les violences sexuelles, ce chiffre frappant, plus de la moitié des victimes sont des mineurs. Autre indicateur de cette année 2020 décidément très atypique, la baisse de certaines formes de délinquance comme les cambriolages, mais aussi les faits qui se produisent sur la voie publique. Forcément, les gens étaient plus chez eux et moins dans la rue durant les deux confinements. On note une diminution de presque 20% pour les vols violents sans armes par exemple, et on apprend aussi qu'ils sont commis à 45% par des mineurs, tout comme les vols de véhicules.
Les précisions de Gladys Laffitte pour Europe 1. C'était le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie. Un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays a tourné au drame cette nuit. Au moins 44 morts. Les circonstances exactes du drame restent floues. À un temps évoqué l'effondrement de gradins, désormais c'est la piste de la bousculade qui est citée par les secouristes.
On termine avec les sports, Marion Calais, et une Ligue 1 à 20 clubs. C'est peut-être bientôt fini. Face à la crise sanitaire et aux difficultés liées aux droits télé, la Ligue de foot envisage de modifier son championnat.
Oui, un peu comme ce qui se fait en Allemagne, la Bundesliga à 18 clubs. Des équipes donc qui seraient moins nombreuses à participer à la compétition, à Cyril de la Morinerie.
Oui, de nombreux dirigeants réclament une Ligue 1 à 18, voire 16 clubs. Et cela pourrait avancer très vite, assure une source proche du dossier, d'ici 2023 ou 2024. Une réforme qui permettrait aux clubs de mieux se partager le gâteau des droits TV, mais aussi de rendre le championnat plus attractif. D'ailleurs, selon nos informations, Canal+ plaide pour une Ligue 1 resserrée pour diffuser des affiches plus alléchantes. Une solution très pertinente, assure également le président de l'OM, Pablo Longoria.
Avec 18 équipes, c'est un championnat beaucoup plus ouvert, plus attractif.
Du côté des joueurs aussi, l'idée séduit. Une Ligue 1 à 18 clubs, c'est 38 matchs en moins par saison. Cela veut dire un rythme moins soutenu et de plus grandes plages de récupération. Philippe Pia, président de l'UNFP, le syndicat des joueurs.
Le calendrier est un problème majeur pour nous. Le foot, il devient de plus en plus dur, plus de blessures, etc. Donc c'est le problème numéro un.
Mais d'autres sont plus réticents et pourraient tout faire pour retarder le projet. Il s'agit des petits clubs qui verraient alors leur chance d'accéder à l'élite considérablement réduite.
La Ligue 1 est le début de la 35e journée ce soir, toujours à 20. Marseille face à Strasbourg à partir de 21h.
Merci, c'était le journal de Marion Calais. Il est bientôt 5h40. Et place aux courses avec Thierry Léger. Quels sont vos pronostics?
C'est un mini quintet plus qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'il réunira seulement 13 partants avec un favori solide, le numéro 13, Firello. Bon troisième en dernier lieu de la deuxième étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Marseille-Borély et qui, dans la foulée, ne peut rêver meilleur engagement pour renouer avec la victoire. On lui opposera les numéros 5, Fast Cash, et 12, Doux Parfum, qui restent tous les deux sur une victoire, l'un à Vincennes et l'autre à Nord-sur-Erdre, ce qui atteste de leur parfaite condition physique. Ensuite, je vous propose Eagle Wind, le numéro 6, désormais sur le bon chemin après deux courses de rentrée suite à une absence de plus de 6 mois, mais aussi Flash Gordon, le numéro 7, idéalement placé juste à la limite du recul des 25 mètres. Enfin, les numéros 1, Éole du Prieuré, 9, Dexter Debo et 10, Désir de Banne compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 5, 12, 6, 7, As, 9 et 10.
Merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et j'accueille à présent le premier invité de ce 5-7. Bonjour Gérard Moreau.
Bonjour.
Statisticien à l'INSEE, vous avez coordonné cette étude sur la France et ses territoires qui nous apprend précisément comment le premier confinement de 2020 a été vécu selon les départements. On s'en doutait, tous n'ont pas été touchés de la même manière sur le plan économique. Lesquels ont été le plus durement affectés ?
Alors la crise économique associée à la pandémie a été très brutale hein, au printemps 2020 avec une baisse d'activité de plus d'un tiers un peu partout en France. Cela étant, on peut dire que cet impact, même s'il a été fort, il a été variable selon les territoires et a commencé par le fait que tous les territoires n'ont pas la même orientation économique. Donc certains territoires ont été nettement plus touchés parce qu'ils abritent davantage d'activités touristiques, parce qu'ils abritent certaines activités industrielles qui ont été impactées et parce qu'ils abritent également des activités de services aux ménages, des activités dans le domaine culturel qui ont été empêchées par les mesures sanitaires.
Donc, en parcourant votre rapport, on se rend par exemple compte que les départements des Alpes ou des Pyrénées ont été très durement touchés dès le début du mois de mars 2020.
Oui. Dès le début du mois de mars 2020, alors que nous étions en pleine saison de ski, d'emblée, il y a eu une nécessité pour tous les touristes de quitter le territoire. Donc très rapidement, une partie de la population a quitté ces territoires. Il y a eu beaucoup moins de consommation et beaucoup moins d'activités économiques. Donc l'impact a été très très fort, tant dans les Pyrénées que dans les Alpes. Dès le début du confinement.
Vous parliez aussi des départements plus industriels auxquels est-ce que vous faites référence ?
Parmi les industries qui ont été très touchées, on va trouver les industries automobiles et aéronautiques pour plusieurs raisons, parce que ces industries ont perdu un peu des perspectives en termes de demande, parce qu'elles ont eu également des difficultés du point de vue de l'offre, du fait, entre autres, de pouvoir se fournir à l'international. Et donc, on a, par exemple, les départements du Doubs ou du Haut-Rhin, dans lesquels les industries automobiles sont assez présentes, qui ont subi fortement l'impact de cette crise. De l'autre côté de la France, nous avons aussi la Haute-Garonne, dans laquelle on sait que Toulouse abrite de nombreuses activités aéronautiques, a également subi très fortement l'impact des baisses de perspectives dans ce secteur.
À l'inverse, il y a ceux qui ont limité la casse, si je puis dire. Sur quoi ils se sont appuyés, ces départements qui s'en sont un petit peu mieux sortis que les autres ?
Alors, il y a plusieurs façons effectivement d'avoir limité la casse, comme vous dites. Alors, on peut citer le littoral atlantique, la partie ouest de la France, de façon générale, parce qu'elle a été moins touchée par la pandémie, d'une part, mais aussi parce qu'elle a pu bénéficier d'apports de populations qui se sont déplacées vers des résidences secondaires à ce moment, qui ont quitté quelques grandes métropoles, et parce que certaines activités ont été au contraire, bien fortement maintenu. On peut penser en Bretagne et dans les Pays de la Loire à des activités agricoles et des activités d'agroalimentaire. On peut penser aussi à des territoires moins denses, situés dans le centre de la France, avec une part d'emploi public plus importante qui, elle, a été stabilisée, et avec des revenus également qui ont été plus soutenus, parce que ces territoires hébergent plus de personnes âgées, avec des retraites qui n'ont pas été affectées du tout par les pertes de revenus qu'ont pu connaître certains salariés. Et donc, globalement, les économies locales dans ces territoires ont été préservées.
Inégalité sur le maintien ou non de l'emploi, hein, c'est ce que vous nous avez expliqué avec les départements les plus impactés parce qu'ils étaient des régions touristiques ou industrielles. À ça est venu s'ajouter dans d'autres endroits inégalité sur le maintien ou non de la population sur place pour faire tourner les commerces, par exemple, qui restaient ouverts.
Oui, effectivement, dès mi-mars, on a eu quand même des départements qui ont perdu une bonne partie de leur population. En tête, entre guillemets, la Savoie avec moins 30% et Paris avec moins 20%.
On a parlé effectivement de l'exode des Parisiens et on va y revenir avec vous. La Savoie, ça paraît assez surprenant. C'est un département qui aurait pu servir de refuge aussi. Il y a l'espace, les lacs, la montagne. Pourquoi est-ce que la Savoie a perdu autant d'habitants ?
La Savoie, ça a été l'effet de la saison de ski dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc une grande partie de la population qui a quitté ce département à ce moment-là, c'était des touristes qui étaient dans les stations de ski, d'où l'explication. Tandis qu'à Paris, l'explication vient plutôt du fait que des étudiants, entre autres, qui étaient à Paris, ou c'est le cas aussi d'autres grandes villes universitaires, ont quitté ces villes pour aller s'installer dans des territoires moins denses, soit chez leurs parents et pour d'autres actifs éventuellement dans des résidences secondaires.
Un habitant sur cinq qui a quitté Paris, c'est un consommateur sur cinq dans les magasins qui restaient ouverts.
Complètement. Quand on perd un cinquième de ses consommateurs, ça a forcément un effet. Et en plus, à Paris, qui est une grande métropole avec du tourisme international, avec des activités culturelles et de loisirs qui, elles, ont été fermées. Tout ça a forcément un impact fort sur l'économie de la capitale.
Si on résume sur tous les tableaux, en réalité, on a environ un quart du pays qui paie un tribut plus lourd que les autres. C'est ce qui ressort de ce rapport. J'imagine que ça va demander un autre volet de votre étude, mais est-ce qu'on sait si le redémarrage qui a suivi depuis a compensé ou si ce sont des inégalités qui sont ancrées, qui vont marquer durablement ces départements ?
Alors c'est bien sûr difficile de faire de la prospective, mais en tout cas, le premier redémarrage qui a eu lieu après le confinement a montré qu'il y a eu d'une part un redémarrage qui a été assez vigoureux. Cela étant, on a gardé la même hiérarchie des pertes d'activité économique. Cela étant, les impacts sociaux montent. On a vu monter les demandes de RSA parce qu'il y a des pertes de revenus chez une partie des ménages, tandis que d'autres épargnent. Donc on a quand même le risque est quand même qu'il y ait un certain nombre de difficultés qui s'inscrivent dans la durée.
On suivra ça avec vous à l'heure, hein, en tout cas aujourd'hui, de ce troisième déconfinement avec les annonces dans la presse régionale ce matin d'Emmanuel Macron. Nul doute que vous aurez là aussi des études intéressantes à mener à l'avenir. Merci beaucoup Gérard Moreau, division des statistiques locales de l'INSEE. Merci pour votre éclairage ce matin. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Europe 1.
5h48, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France. On va aller en Mayenne avec Julien Froment dans un instant.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
5h10, l'essentiel et ses trois premiers cas de variant indien détectés en France. Un dans le Lot-et-Garonne, deux dans les Bouches-du-Rhône. Cas positif détecté sur des personnes qui revenaient d'Inde. 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin, les quatre étapes du déconfinement annoncées par Emmanuel Macron. D'abord la fin des restrictions de déplacement, puis la réouverture des lieux de culture et des terrasses avant l'autorisation de grands événements. Et enfin la fin du couvre-feu et des limitations de rassemblement. Et puis les 9 Italiens arrêtés cette semaine en France à la demande de l'Italie ont tous été relâchés, placés sous contrôle judiciaire, le temps que la justice examine la demande d'extradition formulée par Rome à l'encontre de ses anciens membres des Brigades Rouges.
Europe 1, Théo Manval. La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Julien, direction la Mayenne, dans les Pays de la Loire, où la gendarmerie a mis au point une application très utile pour les agriculteurs.
Exactement, ça s'appelle Vigie, on l'installe bien évidemment sur son smartphone et elle prévient des actes de malveillance dans la région car certaines exploitations se retrouvent isolées, loin de l'habitation de l'exploitant. Résultat, certains se font visiter, c'est ce qu'explique le Figaro avec l'exemple d'un éleveur de bovins qui s'est fait dérober 200 litres de gazole, de l'huile de moteur ou encore une grosse chaîne d'attelage. Bref, il y en avait pour quelques milliers d'euros.
Alors comment ça fonctionne, Julien Froment, cette application ?
Une fois installée, l'application envoie aux exploitants des alertes rédigées par la gendarmerie de la Mayenne. Par exemple, attention, augmentation des vols de carburant dans les véhicules de chantier ou de transport. Les exploitations agricoles peuvent être également ciblées. C'est ce qu'on peut lire dans ces alertes avec une cartographie précise des vols commis. Alors pour le moment, seulement une centaine d'exploitants utilisent l'application sur les 6300 que compte le département, mais la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles militent pour une utilisation plus massive. L'application est disponible sur Android et sur Apple. Le téléchargement est gratuit. Il faudra ensuite payer un abonnement annuel de 100 euros. Somme plutôt dérisoire comparée à la valeur des objets volés.
Effectivement. Merci beaucoup, Julien Froment. Vous partagez, auditeurs, avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Charlotte Barrican, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ce matin ?
Eh bien, c'est un sport que je ne pratique pas et pour lequel je n'y connais même presque rien. Mais je suis tombée sur une vidéo qui a retenu mon attention. Yes !
C'est communicatif.
Donc, est-ce que vous vous entendez ? Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez entendu parler de la lucarne d'Evry, les garçons ?
Bien sûr.
Ouais, voilà, donc cette vidéo qu'on vient d'entendre et les rires qui l'accompagnent ont fait le tour des réseaux sociaux. 1,8 million de vues. Un buzz considérable pour ce jeu tout bête. Le but, sans mauvais jeu de mots, eh bien, envoyer un ballon de football à travers une toute petite fenêtre du local à poubelle d'une cité située à Evry. Depuis le trottoir d'en face, c'est ce qu'on voit dans la vidéo que vous venez d'entendre.
Il faut pas mal d'habileté, effectivement, pour ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Pourquoi elle a pris autant d'ampleur ?
Alors, la vidéo que vous avez entendue date de 2019, mais l'auteur de cette magnifique lucarne, celui que l'on surnomme Gaël Ancien, a passé 2 ans à voir les jeunes de son quartier essayer de faire comme lui. Mission presque impossible, personne n'y arrive. Il décide alors de les coacher, jusqu'à il y a à peine quelques jours où le petit frère de Gaël Ancien, un certain Mala, marque une nouvelle lucarne. Quelqu'un filmait à ce moment-là et en moins de quelques secondes, la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux et un nouveau buzz quand une certaine Gigi marque à son tour.
Ok, ok, sans madame, ok. Première.
Alors Gigi, c'est la première femme qui a marqué, pour le moment la seule. Depuis, c'est le défilé sur ce trottoir d'Evry. Des centaines de personnes viennent s'entraîner tous les jours sous les yeux des habitants du quartier, mais aussi des passants curieux. Alors les garçons, est-ce que ça vous tente d'aller à Evry après la matinale pour s'essayer ?
Je suis sûr que Julien Froment va aller essayer ses pieds.
Plat du pied sécurité, comme on dit.
Merci Charlotte, merci Julien.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours. Avec On de la Traconte aujourd'hui, l'histoire de Martine et Karim, deux métropolitains partis vivre en 2004, leur rêve de tropique en Martinique. Sauf qu'ils sont retrouvés morts dans la mangrove de la baie du Robert. Christophe Rondelat reçoit pour en parler l'un des avocats de leur famille, maître François Drajon. Le récit dans On de la Traconte à 14h, c'est à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe 1, Théo Manval.
Il est 5h54 sur Europe 1, l'heure de s'intéresser à notre planète comme chaque matin. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, on revient avec vous sur la création d'une filière de recyclage des cheveux coupés pour filtrer les hydrocarbures dans l'eau.
C'est l'initiative d'un coiffeur du Var et de son association Coiffeur Juste, lancée en 2015 pour récupérer les cheveux auprès des salons de la région afin qu'ils soient transformés en une sorte de tapis chevelu. Des tapis utilisés pour filtrer les hydrocarbures dans la mer. C'est en cours d'expérimentation dans le port de plaisance de Cavalaire-sur-Mer actuellement. Certains sont même placés en fond de cale de bateau et d'autres sont disposés autour de la station-service du port. C'est une solution facile et pratique. Je vous explique pourquoi. Une fois dans l'eau, les cheveux offrent une adhérence très forte pour toutes les huiles et plaques de mazout. Une fois saturé, chaque kilo de cheveux est capable d'absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures.
C'est un rendement assez incomparable et c'est une solution en économie circulaire, surtout qui permettrait même de lutter contre les marées noires.
de les éponger plus facilement. Oui, lors de la marée noire qui a touché l'île Maurice en 2020, Coiffeur Juste proposait même de donner 20 tonnes de cheveux pour aider à filtrer les dégâts. D'ailleurs, de nombreux Mauriciens et Mauriciennes s'étaient coupés les cheveux pour participer à l'effort.
Et alors, où en est cette pratique à plus grande échelle ?
En fait, elle est tout à fait connue, cette méthode. En 1978, la marée noire de Bretagne avait été partiellement traitée aux cheveux, comme ce fut le cas aussi en Alaska en 1989 ou en Indonésie en 2006. Suite à l'accident en Alaska, le collectif américain Clean Wave avait d'ailleurs récupéré des tonnes de cheveux pour absorber la matière et nettoyer le littoral. Et au-delà du nettoyage des océans, cette matière première serait en train de devenir une nouvelle ressource. Tous les jours, rendez-vous compte, des milliers de coiffeurs coupent nos cheveux. Il en résulte des tonnes de déchets qui représentent une matière organique à haute valeur ajoutée qui peut trouver d'étonnants débouchés. L'association de coiffeurs Hairdresser Fair fait aujourd'hui la collecte des cheveux dans tous les salons de coiffure adhérents pour de nouveaux usages, en les recyclant principalement comme fertilisant grâce à l'azote et le soufre que contient la kératine, ou encore plus surprenant comme isolant à l'instar de la laine de mouton pour l'industrie du bâtiment.
Merci beaucoup Fanny Agostini. Bon week-end, on vous retrouve lundi. Laurent Cabrol, c'est une fin de semaine un petit peu agitée.
Agité, oui, surtout dans les régions du sud. Hein. On y reviendra, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la matinale, parce que c'est sérieux quand même. Il risque d'y avoir des orages, etc., et des pluies assez violentes. Donc c'est un secteur à surveiller, notamment sur la Provence, la Côte d'Azur, sur la Corse. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme, mais nous avons de la pluie, parfois des orages aussi, mais ils seront rares, sur le Midi-Pyrénées, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Dijonais, les Alpes du Sud, la région Rhône-Alpes, il pleut, l'Annecy et Chambéry, le Berry, le Nivernais et le littoral méditerranéen. Autant de régions où en ce moment, ou dans la journée, vous aurez de la pluie, mais des pluies assez resserrées. Par contre, en revanche, sur le littoral de la Manche, la Vallée de la Loire, la région parisienne, Champagne, Ardennes, Lorraine, Morvan, Aquitaine, Bretagne, l'Ouest-Bretagne, là, ce sont plutôt des éclaircies, avec quand même quelques ondées ici ou là. Et puis les températures ce matin, moins 3 à Charleville. Alors Charleville, là, on n'arrive pas à s'en décoller, il fait vraiment très froid. Alors qu'ailleurs, bon, 2 à Lille, c'est pas chaud, hein, 4 à Rennes en ce moment, 7 en région parisienne, 8 à Strasbourg, 10 à Lyon, 12 à Nice, 14 à Marseille. Et cet après-midi, autour de 13 à 19 degrés. Si vous voulez, je peux vous les détailler.
Allez-y.
Ces températures, je vous donne 12 degrés à Saint-Étienne au meilleur de l'après-midi. Il en fera 13 à Caen, à Besançon, à Lille et à Colmar. 14 à Dijon, comme à Lyon et Vichy. 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux, Nantes et Paris. 18 à Nice, 19 à Marseille et 21 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure. Bienvenue à tous sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce vendredi 30 avril.
On a enfin une date, donc ça c'est super cool, ça va nous permettre de refaire notre métier, et tous les gens vont enfin pouvoir réellement avoir un petit peu de vie en dehors du travail. C'est une excellente nouvelle.
Une excellente nouvelle pour les restaurateurs, réouverture des terrasses dans 3 semaines, service en intérieur début juin. Le protocole sanitaire reste drastique, mais les portes vont pouvoir rouvrir. Alors est-ce que ce sera rentable? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Jocelyn Olive, directeur général du groupe Buffalo Grill, sera mon invité à 6h40. Avant ça, dans 20 minutes, les salles de spectacle ont aussi un horizon, réouverture sous jauge réduite le 19 mai, mais lui n'a pas voulu attendre. Mon invité inattendu part pour la Chine aujourd'hui, jouer son spectacle devant plusieurs centaines de fans, mais il y va en voiture, périple rocambolesque. Ne le manquez pas, c'est dans 20 minutes. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera justement en Chine, puis en Italie et en Pologne, sans oublier, comme tous les jours, notre respiration musicale. Le groupe norvégien AHA au programme dans la partition d'Omblin Roche. Ce sera à 6h25.
Europe Matin, le 5-7.